Bonjour aux auditeurs et aux auditrices de PFM. Bienvenue dans l'émission Bruit de couloir, animée par des détenus au centre de détention de Bapaume. Je suis avec Frédéric, accompagné de Cynthia.
Bonjour.
Alain.
Bonjour.
Gérard. Jean.
Bonjour.
Marie.
Hello.
Et Alexis. Au sommaire aujourd'hui du jardinage, du sport, du lien parent-enfant, de la littérature, Sardou, poésie et de la musique. On commence cette émission avec une interview sur les coins jardinage du centre de détention.
Où se trouve le jardin ? C'est en plein centre du centre de détention. À l'origine, c'est une grande cour qui a été transformée en jardin. C'est une terre d'apport, hein. C'est une terre qui n'est pas très très fertile, mais au fur et à mesure, on s'arrange pour la rendre fertile.
À peu près quelle surface vous avez comme...
Oh là là, ça fait combien ça ? Ça fait 300 mètres carrés. 300 mètres carrés, ouais.
Et qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous plantez en fait ?
Ben, y a une partie fleurs et il y a une partie légumes. Donc en fait, on plante... moi, je suis pas très très spécialiste en fleurs, donc je laisse ce domaine à mes collègues. Mais au niveau des légumes, bon, bah, c'est ce qu'on appelle des légumes de saison. Hein. Donc, comme vous pouvez trouver chez votre petit épicier, bon, à part les ananas et les bananes, on fait à peu près tout, quoi.
Moi, j'ai pu remarquer quand même en passant de voir des glaïeuls, des œillets poètes, des œillets d'Inde. J'ai trouvé très fleuri votre jardin quand même. Et au point de vue plantation, est-ce que vous avez l'aide d'un encadrement, de quelqu'un de la détention qui peut vous fournir ce que vous réclamez comme légumes, comme fleurs, enfin tout ce genre ?
Oui, on a Monsieur Contin qui vient tous les vendredis et on lui fait des demandes et puis le vendredi d'après nous les apporte. Donc c'est soit pour faire les semis, soit pour les plantations, puis et autres. Des fois c'est pour des outils, des fois c'est pour du matériel pour faire des découpes, Parce que faut savoir que tout le matériel de coupe et de découpe, on peut les avoir que le vendredi avec l'accompagnateur. Sinon toute la semaine on a le droit qu'aux outils de jardinage. Point.
Alors pour bien comprendre cette activité-là, vous y participez une fois par semaine, tous les jours, comment ça se passe ?
Toute la semaine, du lundi au vendredi matin, de 9h à 11h.
Comme toute activité, en fait, ça permet de passer le temps qui est bien long ici, dans l'établissement. Donc c'est une activité parmi tant d'autres, mais enfin... Bon, pour les gens qui étaient habitués à faire du jardin, bon, ben, c'est une activité qui est, disons, très très intéressante pour eux.
Ah, pour nous, c'est un bien-être, une liberté, indirecte, mais c'est une liberté. On n'est pas enfermé dans la cellule. Déjà, on est à l'extérieur, donc c'est pas une jouissance, mais c'est une libération indirecte, mais c'est comme ça.
Et je voulais vous demander, c'est aussi le plaisir d'être, je pense, en groupe et à l'extérieur.
Bien sûr, c'est plus intéressant de se retrouver, on est à 7 ou 8 à chaque fois, et on est ensemble, on s'organise pour faire les travaux, et ensuite on est très bien ensemble, et ça nous fait du bien d'être dehors.
On prend beaucoup l'air, puis on peut parler avec les anciens que je connaissais pas, j'ai beaucoup d'activités, après on me dit tiens, faut faire ça, je fais... C'est passer du temps avec les plus anciens que moi.
On est à l'extérieur et ça, c'est le principal. Bon, ensuite, il y a vraiment l'activité jardin où chacun a ses compétences et on les partage surtout. C'est une notion de partage aussi parce que l'un sait des choses, l'autre ne les connaît pas. Et c'est en fait le principe, c'est de s'entraider quoi, au niveau des connaissances.
Est-ce qu'il y a une génération particulière ? Est-ce qu'il y a des femmes dans cet atelier jardinage ? Comment ça se passe un peu ?
Non, il n'y a pas de mixité. En fait, c'est pas nous qui décidons, hein, mais c'est décidé par les directions. C'est uniquement réservé aux hommes. Bon, il y a une limite d'âge également. C'est limité, c'est à partir de 60 ans normalement, mais c'est un petit peu... C'est pas tellement respecté. Hein.
Il faut avoir à peu près 55 ans aussi. Il y a des gars avec nous qui ont 55 ans.
Des plus jeunes.
Oui, des plus jeunes. Il y a des personnes beaucoup plus handicapées aussi. Donc nous, on doit les surveiller quand même plus ou moins. On leur explique que le travail et puis on essaye de bien faire malgré que ce n'est pas notre rôle, quoi.
Comment ça se passe une fois que c'est planté? Il y a une récolte qui est organisée et puis donc les légumes ou les fruits, vous les amenez dans votre cellule ou comment ça se passe un petit peu? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
Le vendredi, donc, quand on peut sortir les produits du jardin, on a comme des petits paniers, de la taille d'un panier qu'on trouverait dans un hypermarché ou un supermarché. Et chacun choisit les légumes qu'il veut prendre. Alors quelquefois, c'est quelqu'un qui s'en occupe, solitairement, je vais dire, mais qui demande à chacun ce qu'il désire.
Au préalable, jeudi, on sait à peu près qu'est-ce que les gars ils ont besoin le lendemain. Donc on commence déjà à déterrer, soit quand c'est les carottes, les salades et tout. Et on a la serre. Dans la serre, on fait des semis. Avec les semis, on a les petites salades qui sortent ou les petits produits qui sortent. Et après, on les replante. Et en fin de semaine ou quelques temps après, on va les récupérer et puis on fait la distribution aux amis.
Donc, je crois que ça posait un problème, le fait que vous ne puissiez récolter que le vendredi, c'est ça?
Si, mettons, les salades sont poussées le lundi, les tomates sont rouges le lundi, si on doit les récolter le vendredi, on a un grand problème. C'est qu'ils sont germés, c'est pourri, et il faut les jeter. Et ce qui nous trouvons regrettable, c'est que nous pourrions au moins les récolter tous les jours, quoi. Un petit peu moins, mais les récolter.
J'ai remarqué que vous faisiez une petite pause café sympathique en milieu d'activité.
Oui, tous les jours, quand on va au jardin, on fait une pause café pendant 10 minutes, un quart d'heure. C'est bien, au moins on peut parler ensemble, choses et d'autres, et ce qu'on va faire après.
Oui, et puis en plus, c'est une heure particulière, parce que c'est toujours à ce moment-là que les officiels passent dans les couloirs. Et ils nous voient dans le jardin en train de rien faire, donc ils nous disent « Oh, mais ils font pas grand-chose hein, ici ». Alors voilà, c'était une petite anecdote.
Merci pour cette interview. Tout de suite, les recos littéraires de Marie et moi-même. Coucou les auditos, petit moment culture avec Marie et moi-même. Nous allons vous faire découvrir quelques livres que nous avons lus et que nous avons beaucoup appréciés.
Donc nous voulions vous parler du journal d'Anne Frank, qui est disponible aux éditions Livre de Poche pour 7,10€. C'est vrai que c'est un classique, mais dans le contexte actuel, ce livre fait plus que jamais écho à l'importance donc de rester unis. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le journal d'Anne Frank, c'est une autobiographie écrite lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc Anne Frank avait 15 ans et elle l'a tenue de 1942 à 1944, évidemment. Et elle va décrire le quotidien de sa famille juive sous la montée du nazisme. Donc on ne peut que conseiller de lire ce livre qui est bouleversant, mais qui est aussi rempli d'espoir.
Pour les fans de romans-fiction, je vous propose Outlander, qui compte 8 tomes, donc il faut aimer lire. Mais ils se lisent super facilement. Donc ils sont écrits par Diana Cabaldon et dans les éditions J'ai lu. Vous allez suivre une magnifique histoire d'amour où le personnage principal fait des sauts dans le temps. Elle effectue tous ses sauts dans le temps grâce à une montagne typique des montagnes celtes, où vous découvrirez grâce à elle des merveilleux détails du paysage. Vous allez l'impression d'être en celte, voilà, en terre celte. Tout au long de ces vos lectures, vous allez vous demander si elle va succomber à ce magnifique soldat rencontré dans ses sauts dans le temps, dans le passé, justement, ou si sa vie présente mettra un terme à cette aventure. Donc je vous conseille cette petite lecture qui vous permettra et de voyager et de suivre une belle histoire d'amour.
Donc un tout autre bouquin maintenant qui fait réfléchir et qui va pouvoir occuper vos esprits un long moment. Ça s'appelle Escape Book, la tour de l'alchimiste de François Lévin. Le concept, il est simple, c'est basé sur les escape games. Et donc, la tour de l'alchimiste est une suite d'énigmes et de défis à résoudre pour parvenir à la fin du livre. Donc, si vous tentez l'aventure, je vous souhaite bon courage parce qu'il n'est pas facile.
Girl Power oblige, je dois vous partager cette petite découverte. Les culottés de Pénélope Bagieu. dont plusieurs sujets sont proposés. Je pense que vous avez dû voir, ça passe un petit peu sur Canal+, elle fait des petites vidéos super sympas. Je me suis attardée sur les culottés l'intégrale qui vous fait découvrir 30 femmes qui sont
des rockstars
ou des femmes à barbe,
athlètes
ou chamanes,
exploratrices,
travailleuses sociales.
Elles ont tracé leur voie.
Elles ont lutté contre vents et marées pour faire ce qu'elles avaient à faire. Leur nom rime avec combat, comme Joséphine Baker, Betty Davis, Clémentine Delay. Tout cela sous forme d'une BD aux éditions Gallimard. Franchement, très intéressant, vous allez apprendre plein de choses et je pense que Joséphine Baker parle à tout le monde. Bonne lecture.
Donc, notre coup de cœur entre amour
et réflexion
sur la qualité de vie des personnes en situation de handicap et leur choix de fin de vie.
Avant toi de Jojo Maïs aux éditions Milady.
Pendant 520 pages, vous suivrez Will et Lou dans un combat pour la vie.
Les parents de Will, dans un dernier espoir, engagent une aide à domicile, aux tenues atypiques, dans le but de lui redonner goût à la vie.
Suite à un accident qui l'a rendu tétraplégique
et la possibilité
de mettre légalement fin à ses jours.
Nous voulions partager ce livre avec vous,
car c'est un sujet qui demande réflexion
et qui peut amener à faire bouger les consciences.
Donc j'espère que ce petit moment vous a plu, c'était Marie
et Aurélie.
Passez une bonne journée les auditos.
Nous allons rester dans la littérature avec un petit peu de poésie.
Voilà, et ben, on va reprendre un petit poème. C'est de la poésie qui date du XVIe siècle. Le titre, c'est Villanelle. Au bord du puits sans eau, dans l'âpre et sombre lumière, muni de mon simple seau, j'écume quelques gouttes d'eau. Quand le blizzard vous gifle, chargé de cristaux de neige, sans un puits de lumière, où sont mes chants d'oiseaux ? Mon âme est comme ce puits dans l'âpre et sombre lumière, glacée comme un puits de mine, où sont mes chants d'oiseaux ? Fondre comme la chandelle et devenir ce pot de terre qui orne les tombeaux, où sont mes chants d'oiseaux ? Où sont mes chants d'oiseaux ?
Après ce beau moment poétique, une interview du coach sportif du centre de détention de Bapaume.
Salut Sébastien, vu que tu es moniteur de sport au CD de Bapaume, dis-nous quel est ton parcours et pourquoi es-tu du prof de sport ?
Alors mon parcours, je suis rentré dans la pénitentiaire en 2000. J'ai fait, pour donner une idée, c'est mon 11e établissement. Alors j'ai fait de la maison d'arrêt, j'ai fait du CD, j'ai fait de la centrale et j'ai fait de l'EPM, des établissements pour mineurs. À ma 12e année de service, j'ai voulu faire prof de sport, donc j'ai passé les tests et après j'ai eu l'accès à l'école. Avant, j'avais été faisant fonction pendant 2 ans sur Rouen. De ce fait-là, quand je suis parti de Rouen, en fait, c'est parce que je mutais pour rentrer dans le Nord, parce que d'origine, je suis du Nord. Et j'ai réussi à avoir mon concours en même temps, en fait. Donc je suis rentré dans le Nord, j'ai été affecté et après j'ai eu mon concours, je suis devenu prof de sport. Donc de là, je suis passé d'abord à l'EPM de Porcheville. Après, je suis allé à Beauvais, l'ouverture. Et puis ensuite, je suis arrivé ici.
Et dis-nous, ici, y a-t-il des profs spécialisés pour accompagner les gens, par exemple à la musculation ou autre activité sportive ?
Profs spécialisés ? Moi, quand j'ai le temps, j'ai pas mal de petites cordes à mon arc, mais comme pour l'instant, on n'est vraiment pas beaucoup au sport... Je ne peux pas me diversifier. Je diversifie ici sur place en mettant un petit peu de crossfit puis des activités spéciales. Si on était plusieurs, il y aurait plus de spé, mais pour l'instant, non. Par contre, l'année prochaine, donc l'année 24, on a prévu avec l'aide de Lucie des activités spécifiques qui vont ramener un plus ici pour vous. On a choisi rajouter du crossfit. Rajouter des activités spécifiques pour les personnes qu'on appelle le BV2, le bien vieillir en détention, donc plus de 60 ans. Des compléments avec des personnes qui viennent avec des spécialités, des capacités qui viennent de l'extérieur. Sur les heures de cours données, faire du spécifique. Ensuite, on a fait aussi des cours spécifiques pour les dames, avec des profs qui viennent de l'extérieur pour donner des spécificités et des cours.
Donc ça sera en début d'année prochaine, pour les femmes, parce que là, je sais que, vu qu'elles n'ont pas d'accès à l'Eurosport, oui, à l'Euronef, je pense qu'elles ont besoin de ça pour pouvoir canaliser.
Il y aura, c'est courant de l'année prochaine. D'accord. Je ne sais pas si c'est au tout début, mais elles auront beaucoup de semaines en activité. Ouais. Mais il faut savoir, sur le quartier femmes, elles ont une salle de sport, ils ont une salle de muscu quand même.
Et ici à Bapaume, comment se fait-il que les gens qui se permettent d'aller à la musculation n'ont pas d'accès à avoir des produits style protéines ou autre que la protéine, en fait, parce que je pense qu'avec le peu de nourriture qu'il y a ici, on ne peut pas se nourrir bien en fait en faisant du sport.
Ouais, ça je l'entends bien. On a diverses demandes de personnes qui sont addictes à ce sport. J'en fais partie. Hein. Et il est vrai que avant, moi j'ai pas connu, tu vois, ça fait 7 ans, mais on va dire il y a une grosse dizaine d'années, il y avait encore des compléments protéines et des trucs comme ça. Mais je sais qu'il y a eu un souci au niveau des livraisons. Et les produits, par exemple, ont été reçus et il y a eu des compléments de rajoutés dedans. Et ça s'est mal passé, ce qui fait que de ce fait-là, dès qu'il y a quelque chose, une petite chose comme ça, c'est retiré tout de suite des cantines, quoi. Ça, c'est vrai.
D'accord. Donc les détenus, même en faisant une demande à la direction, ne pourront pas accéder à cette demande, en fait.
Là, par contre, je ne peux pas mouiller sur ça. C'est après, c'est à vous de voir. D'accord. Là, c'est à vous de voir. Les compléments ou des rajouts de quoi que ce soit, même changer au niveau de vos cantines, ça vous à vous battre pour ça, quoi.
Enfin, j'ai une dernière question. Qu'en penses-tu que les activités extérieures vont-ils reprendre, style marche à la plage ou le vélo, tout ça? Parce que je pense que ça ferait du bien à certains détenus de pouvoir justement participer à ces activités. Aller dehors un petit peu, sortir, ça ferait du bien.
Ouais, je comprends bien. On va dire 2024, ça va être une grosse année, je pense, en sport. Oui. En plus que c'est l'année des Jeux Olympiques. Et la pénitentiaire nous demande de faire des gros efforts au niveau du sport et faire des représentations avec des activités. On va créer des activités juste pour les JO et on va essayer de glisser dedans des sorties. C'en est prévu, il y a déjà des sorties normalement ping-pong sur d'autres établissements, en inter-établissement. Normalement, il y a des choses qui vont faire que... Il ne faut pas qu'il y ait trop d'autres détenus qui fassent de bêtises... C'est surtout ça, en fait, qui va freiner les choses. Si dans d'autres établissements, il y en a qui se permettent de sortir et de se permettre de ne pas rentrer, là, ça freine, mais énormément.
Sébastien, est-ce que tu peux nous parler de l'importance du sport pour les personnes détenues? Pourquoi c'est important pour ces personnes-là?
Tu vois, en fait, le sport en détention, c'est comme le petit bouchon sur la cocotte minute. Ça permet de faire redescendre la pression, en fait. Et plus tu seras à l'écoute des demandes des personnes détenues, en fonction de la relation qui va s'établir, tu vas pouvoir essayer de se rapprocher au plus de leurs demandes et de ce fait-là soulager énormément de tensions, en fait. Genre, si tu as des activités spécifiques qui te sont demandées, si toi, après, par rapport à ta hiérarchie et à toutes tes compétences, tu sais mettre en place et tu sais gérer un peu tout ça, les pressions, elles descendent. Et le sport, c'est la cocotte. C'est ce qui fait que ta dépression sera calme ou pas, en fait. Quand tu as une vingtaine ou une trentaine de personnes que tu as ici sur place qui remontent bien en sueur, pas défoncées, mais détendues, quoi, ça sent énormément de tension. T'as plus du tout... T'as beaucoup moins de conflits, en fait.
D'accord. Merci, Sébastien, pour ta participation. À bientôt.
Prie. Bon courage, bonne journée.
Merci. Salut. Alors, présente-toi. Et dis-nous, quel est ton rôle ici?
Bonjour, donc moi c'est Alexandre, je suis OxySport, et donc depuis 6 mois. Donc ici, le rôle de l'Oxy, c'est de préparer le matériel, entretenir la salle correctement pour que ça soit dans le meilleur état pour les détenus, et entre autres, profiter aussi un peu de la salle et jouer avec les détenus.
Faire du sport en général, quoi, ça te permet d'être un peu plus présent au sport et de t'occuper un peu plus de toi, on va dire.
C'est ça, ouais, c'est le bon côté d'être oxysport, c'est que ça permet de faire beaucoup d'heures de sport dans la semaine. Donc c'est déjà bon pour le moral, parce que c'est vrai que le sport en détention, c'est quand même quelque chose de très très important pour se maintenir physiquement comme mentalement. Et c'est vraiment un rôle assez important. Et c'est une grande chance d'être oxysport en détention ici.
Je t'en remercie, Alex, c'est gentil.
On espère que cette interview vous a inspiré de nouvelles séances de sport. Cynthia, tu nous parles maintenant de Sardou.
Michel Sardou est né le 27/01/1947 à Paris, né de parents de Fernand Sardou, comédien-chanteur dans les cabarets de Paris-Marseille, et de Jackie Sardou, comédienne-chanteuse au cabaret du Moulin Rouge à Paris, a été actrice dans le feuilleton Maggie. Et de grands-parents, Valentin Sardou, comédien théâtre à Marseille, et Baptistin, comédien théâtre à Avignon. Michel Sardou est une grande famille de saltimbanques. Michel Sardou est provocateur, ronchon et séducteur. Il commence sa carrière en 1965 avec la chanson Le Madra, qui n'a pas fui un grand succès. Il a fallu attendre des bals populaires qu'il a fui un grand succès. Après, il a sorti des Ricains, mais le général de Gaulle l'a interdit à la vente. Après, il a sorti Le Rire du Sergent. Il s'est fait insulter d'homophobe en sachant que la chanson parlait de lui-même. Après, il a sorti la chanson de France, mais le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, lui a déclaré un contrôleur d'impôts fiscal sur le dos à propos de la chanson. Mais son plus gros succès à Michel Sardou sont les lacs du Connemara. Malgré que la chanson a failli pas naître le jour, car ce sont deux faux accords sur un synthétiseur que la chanson a vu le jour, que Michel Sardou et Jacques Rebaud ont fait en deux jours. Michel Sardou, c'est plus de 366 chansons, 566 Paris-Bercy, plus les Zéniths de France et les Olympia, et 6 victoires de la musique pour la chanson musulmane, et 15 disques d'or, 12 disques de diamant et 6 disques de platine, et 100 000 places vendues en 8 heures, en 2023. En dehors de la chanson, Michel Sardou connaît un autre métier. C'est d'être comédien et il a joué dans Paris Brûle-t-il, Promotion Canapé et The Cross. Et il a joué au théâtre comme ses parents et grands-parents. Et il a joué dans Représailles, L'homme en question, Si c'est à revers avec son fils Debbie. Et sa dernière pièce de théâtre de Sacha Guitry, N'écoutez pas mesdames. Pourtant, en 2018, Michel Sardou avait annoncé qu'il arrêtait de chanter pour se consacrer au théâtre. Mais en 2023, il annonça qu'il reprenait des concerts partout en France. Sa dernière date prévue sera le 16/03/2024 à Paris-Bercy. L'indomptable Michel Sardou restera le dernier monstre sacré de la chanson française. Et oui, 58 ans de carrière, il a tout réussi.
J'ai eu l'instituteur qui dans les rois de France n'a vu que des tyrans au règne des astres, et celui qui faisait du vieil Anatole France un suppôt de Satan parce qu'il était sans Dieu. J'ai fait les deux écoles et j'ai tout oublié. La nuit des Carmagnoles, la fin des assemblées, les dieux de l'acropole et les saints baptisés. J'étais des deux écoles et ça n'a rien changé. Dans le Lot-et-Garonne, on bouffait du curé, on priait la Madone le dimanche en Vendée. Des cailloux de Provence au château d'Aquitaine, on chantait la Durance, on pleurait la Lorraine. Dans le Rhône et l'Essonne, on chassait les abbés, on plantait en Argonne des croix de Saint-André. Des sommets du Jura au jardin de Touraine, on pleurait la Savoie, on chantait la Lorraine. Je veux que mes enfants s'instruisent à mon école. S'ils ressemblent à quelqu'un, autant que ce soit moi. Après ils s'en iront adorer leurs idoles et vivre leur destin où bon leur semblera. Cette sacrée république qui dit oui, qui dit non, fille aînée de l'Église et de la Convention, elle serait bien heureuse que ses maîtres la laissent libre de faire l'amour et d'aller à la messe dans le Lot-et-Garonne. On bouffait du curé, on priait la Madone le dimanche en Vendée. Des cailloux de Provence au château d'Aquitaine, on chantait la Durance, on pleurait la Lorraine. Dans le Rhône et l'Essonne, on chassait les abbés, on plantait en Argonne des croix de Saint-André. Des sommets du Jura au jardin de Touraine, on pleurait la Savoie, on chantait la Lorraine. Dans le Lot-et-Garonne, on bouffait du curé, on priait la Madone le dimanche en Vendée. Des cailloux de Provence au château d'Aquitaine, on chantait la Durance, on pleurait la Lorraine. Dans le Rhône et l'Essonne, on chassait les abbés, on plantait dans l'Argonne des croix de Saint-André. Des sommets du Jura au jardin de Touraine, on pleurait la Savoie, on chantait la Lorraine. Dans le Lot-et-Garonne, on bouffait du curé, on priait la Madone le dimanche en Vendée. Des cailloux de Provence.
Sur cette musique, les deux écoles de Sardou, on termine cette émission avec une interview de Jean, Marie et moi-même sur le relais enfants-parents en détention de Bapaume.
Mesdames, bonjour. Si vous le voulez bien, nous voudrions aborder le sujet de la relation entre les enfants et leurs parents en détention à travers un organisme, d'après ce que vous m'avez dit, que l'on nomme Prémices et qui vous accompagne. Les critères pour bénéficier de ces visites.
Alors, à Prémices, on doit s'inscrire. C'est comme une activité normale. Donc, on a un bon à remplir et on est sur liste d'attente quand il n'y a plus de place. Et dès qu'il y a une place de libérée, on nous appelle. Il faut avoir le critère, c'est avoir un enfant, tout simplement, et avoir l'autorité parentale.
Voilà. D'accord.
Si on est déchu, on n'a pas le droit d'aller aux activités à Prémices.
Bien sûr. Les enfants de quel âge sont concernés ?
Bah, de tout âge. Ça, dès un mois, même un jour, on peut, parce qu'on a un atelier créatif,
oui,
où on peut créer des petites choses pour nos enfants, donc des peluches, des dessins. Mais on a aussi le groupe de parole où on parle sur les questions des parents, justement, voilà, sur les enfants, comment les éduquer. Par exemple, un exemple tout simple, quels jeux sont adaptés pour eux, qu'est-ce qu'on ferait s'ils font une bêtise, voilà, plein de petites questions.
Alors, je voudrais vous demander aussi la durée de ces visites et leur fréquence.
Après, en soi, l'activité, elle a lieu tous les 15 jours, le lundi après-midi, donc c'est environ 2 heures. Et le groupe de parole, c'est une fois par mois. C'est le groupe de débat. Après, à Prémices, ils organisent aussi des visites entre les parents et leurs enfants, pour ceux qui n'ont pas de parloir ou qui ne les voient pas en temps normal, quoi.
Alors, je vais vous demander une chose qui, pour moi, semble importante. Pouvez-vous apporter des choses réalisées personnellement par vos enfants lors de ces rencontres ? S'ils réalisent un dessin, est-ce que vous pouvez le ramener en cellule ?
Alors, avec Après-Mise, je ne sais pas, parce que moi, du coup, je ne suis pas concernée par l'organisme Après-Mise. J'y vais juste pour les activités, mais ce n'est pas eux qui m'amènent mon fils. Donc,
d'accord,
du coup, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais il me semble qu'ils peuvent
Oui, normalement, les dessins sont acceptés. Après vérification du surveillant, bien sûr, et validation. Parce mais on a le droit... On peut aussi. Ouais. Donc, on parleur normal, on a le droit, et Après-Mise aussi.
Bon, là, je vais vous poser quelque chose qui est un peu plus personnel. Ces visites vous sont réconfortantes, mais doivent vous laisser en pleine désarroi, une fois seul entre les quatre murs de votre cellule. Est-ce plus difficile pour certaines, ou la joie qu'a procuré ces visites vous permet de surmonter cette séparation ?
On l'a vécu hier, oui, avec la fête de Noël, justement, proposée par Après-Mise. L'excitation de l'attente de la date.
Beaucoup de stress au début, ensuite, c'est un moment génial. On ne pense pas vraiment à la séparation tout de suite. Mais c'est vrai qu'après le retour, c'est difficile parce qu'on on se reprend la réalité sans notre enfant, tout seul. Puis tant pis, après on encaisse et puis on attend le prochain parloir avec impatience. On attend les moments avec impatience et puis on se tient à ça, au moment passé avec notre enfant, à la joie que ça nous procure, et on évite de trop déprimer sur la séparation.
En plus, on a découvert que les enfants étaient plus forts que les parents.
Oui, c'est ça, parce que la plupart, on a plus de craintes, et la plupart des mamans ont un peu pleuré en partant et les enfants ne pleuraient pas, même les petits. Oui. Et parce que c'est plus difficile finalement pour nous que pour eux, parfois on a l'impression.
Ah. C'est une surprise, ça. Merci beaucoup de votre franchise.
Merci à toi.
Au revoir.
On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je voudrais remercier tous les chroniqueurs. Frédéric, Marie, Cynthia, Jean, Alain, Gérard, Alexis et moi-même. À bientôt sur Radio PFM.